Voilà, donc ce soir, nous regardons le fruit de la douceur. Alors, donc effectivement, c'est la huitième manifestation du fruit de l'esprit, donc dans la liste de Galates 5, 22. Et c'est traduit donc en Louis II, dans la version Louis II, par le mot douceur. Mais on a vu que les mots bonté, bienveillance, douceur sont très proches dans leur sens. Et d'ailleurs, par exemple, dans la traduction Osterwald, le mot. Donc, il traduit en fait par ce que les autres traduisent par bonté. Et il utilise le mot bénignité. Là, Louis II utilise le mot douceur. Hein. Donc, on voit aussi que le mot qui est traduit dans Galates 5, 22 et dans mon texte ici, qui est traduit patience, il est plusieurs fois traduit par douceur dans d'autres endroits dans la version Louis II. Également, le mot humilité, qui est très proche du mot douceur. Donc, finalement, tout ça n'est pas très surprenant. Parce que on a vu que toutes ces qualités de la bonté, la bienveillance, la douceur, l'humilité, la patience, elles sont en fait très proches et elles vont généralement toujours ensemble. Donc, comme on l'a fait tout au long de cette étude, on va tout d'abord et insister beaucoup, regarder en fait la manifestation du fruit de l'esprit en Dieu lui-même et particulièrement donc en Jésus-Christ, puisque en fait la parole nous dit que nous devons être les imitateurs de Dieu et les imitateurs de Jésus-Christ. Et donc, quand nous regardons à l'Éternel, nous voyons un ensemble d'attributs, mais deux en particulier attirent mon attention. Donc, nous voyons l'attribut de la justice et l'attribut de la grâce. Et ainsi, l'Éternel, lorsqu'il se présente, en fait, pas la première fois, mais en tout cas d'une façon très, je dirais, très complète à Moïse dans Exode 34, il dit ceci, qu'il est le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Donc on voit ici manifester ces deux aspects de la personnalité de Dieu. Il est d'abord caractérisé par la grâce, et on voit qu'il en parle beaucoup, et c'est le choix délibéré de pardonner, qui prend sa source dans son amour et sa bonté, mais il est aussi caractérisé par la justice. C'est pour cela qu'il est dit qu'il ne tient pas le coupable pour innocent, et c'est une nécessité. Et la douceur, donc, que nous regardons aujourd'hui, eh bien, elle appartient, la douceur de Dieu, la douceur de Jésus, elle appartient au domaine de la grâce. Et si cette douceur est bien réelle, nous ne devons pas oublier qu'elle est imméritée. Car en tant que pécheurs, nous méritons non pas la douceur, mais nous méritons la justice et nous méritons le jugement. Mais Dieu prend plaisir à exercer cette douceur, il prend plaisir à exercer la douceur, et c'est ce que nous voyons particulièrement dans notre Seigneur Jésus-Christ et que nous allons regarder maintenant plus en détail. Et je voudrais donc vous demander que vous ouvriez vos Bibles en Matthieu 11, versets 28 et 29, et donc c'est le passage auquel était fait référence dans la première strophe du cantique que je vous ai lu. Donc Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. Et donc Jésus parle et dit ceci: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et donc cet appel de Christ, qui est un des plus célèbres et un des plus poignants, nous voyons qu'il s'adresse à des personnes qui ont un grand besoin de douceur. Ce sont des personnes que Jésus décrit comme étant fatiguées et chargées. Ce sont des personnes qui sont, comme on dit, au bout du rouleau à cause des effets du péché sur leur existence. Elles sont conscientes que le péché est un maître exigeant, intraitable et insatiable qui demande toujours plus. Elles sont remplies d'une culpabilité dont elles n'arrivent pas à se débarrasser. Elles font le mal qu'elles ne voudraient pas. Elles ne font pas le bien qu'elles voudraient. Elles sont à bout. Et Christ leur dit: Venez à moi, et je vous donnerai du repos. Nous voyons un exemple de cette douceur. Nous avons regardé des exemples de cette pratique, de cette douceur dans le ministère de Jésus, en particulier envers la femme adultère. Donc, de Jean chapitre 8, vous connaissez sans doute ce passage. Donc cette femme est sur le point d'être lapidée, elle est amenée par des pharisiens intransigeants qui n'ont pas de place dans leur théologie pour la grâce et ils veulent la lapider. Elle est à deux doigts de mourir. Elle ne dit pas un mot. Mais Jésus la traite avec une grande douceur. Et ce que Jésus va faire, c'est que sans élever la voix, avec beaucoup de sagesse, il va convaincre de péché ses accusateurs et qui vont s'en aller un à un. Et ensuite, il laisse partir la femme et il lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Nous savons pas ce qu'est devenue cette femme, mais je prends plaisir à imaginer qu'elle a été transformée par cet événement, comme beaucoup de personnes qui ont été sauvées par Jésus, et qu'elle est devenue une de ses disciples, et qu'elle a tourné le dos à sa vie de péché, bouleversée qu'elle était par la grâce et par la douceur du Sauveur. Il y a une autre femme aussi, qui est devenue très célèbre, donc on trouve dans Jean chapitre 4, qui est la femme samaritaine. Et elle aussi, cette femme, elle était certainement fatiguée et chargée par son péché. Elle a eu 5 maris, et l'homme avec lequel elle est maintenant n'est pas son mari. Et elle est tellement honteuse de sa vie qu'elle va en fait chercher l'eau au milieu de la journée, à midi, en plein de la chaleur du jour pour pas être avec les autres personnes. Et comme la femme adultère, elle est sans doute aussi au bout du rouleau. Et Jésus la traite avec beaucoup de douceur et aussi avec fermeté. Il exerce une grande sagesse pour l'amener à ce qu'elle reconnaisse elle-même son péché. Et le résultat de cette conversation célèbre entre Jésus et cette femme, c'est qu'elle a été convertie et que beaucoup de Samaritains de sa ville ont été convertis. Et dans tous ces récits de conversion ou de guérison, nous voyons que Jésus traite toujours les gens avec beaucoup de douceur. Conversion des lépreux, conversion d'aveugles, la femme qui perdait du sang, Pierre lors de la pêche miraculeuse, Zachée, la façon dont Jésus traite Marthe et Marie lors de la mort de Lazare. Et quand il est confronté, Jésus est confronté à une humanité qui est brisée par le péché et ses conséquences, par la maladie et la mort, Jésus traite toujours les gens avec une extrême douceur et beaucoup de tact. Et cela est bien décrit également dans un autre passage. Vous pouvez tourner, si vous êtes toujours en chapitre 11, tournez au chapitre 12, donc les versets 18 et 19, qui est une citation de Ésaïe 42. Et nous lisons ceci, donc Matthieu 12, verset 18. « Voici, mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point et il ne criera point. Et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'atteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront son nom. » Donc Jésus traite avec délicatesse le roseau cassé et le lumignon qui fume. Cela décrit des personnes qui sont aux dernières extrémités, des personnes qui sont fatiguées et chargées à cause de leur péché. Cela décrit aussi ceux dont la foi est faible et vacillante, des chrétiens qui sont en proie au doute et au découragement à cause de la persistance du péché dans leur vie. Mais même si leur foi est comme une flamme vacillante d'une petite bougie, Jésus ne l'éteint pas. Et je pense qu'au contraire, cela veut dire qu'il restaure cette flamme et qu'il la revigore. C'est comme la foi de cet homme qui dit à Jésus « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » On voit encore la douceur de Jésus. Il y a beaucoup d'autres passages, mais on la voit aussi dans les images qui sont utilisées pour le décrire et pour décrire sa relation avec son peuple. Il est décrit comme étant le bon berger qui donne sa vie pour les brebis. Et en particulier dans Ésaïe chapitre 40, si vous voulez peut-être tourner dans vos Bibles, Ésaïe chapitre 40, on va regarder les versets 10 et 11. Ésaïe chapitre 40, verset 10, nous dit ceci. « Voici, le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein et conduira les brebis qui allaitent. » De plus tendre et de plus doux que cette image de Dieu qui est comme un berger qui prend dans ses bras les agneaux et qui prend soin des brebis qui allaitent. Pourtant, vous remarquez que cette douceur du verset 11, elle s'accompagne au verset 10 de puissance et de jugement. La douceur de Dieu ne doit certainement pas être confondue avec de la faiblesse. Et comme nous l'avons vu, en Dieu se trouve la grâce, mais se trouve aussi la justice. Nous sommes actuellement dans le temps de la grâce. Dieu offre à tous les hommes le salut qui était acquis par le sang de Jésus versé à la croix du calvaire. Ce dont le cœur est brisé et contrit par le péché accepte ce salut, ce sont ses brebis. Et il les traite avec cette immense douceur que nous venons de voir. Mais il vient un temps, à la fin des temps, où Dieu viendra en jugement. Et le verset 10 nous dit que les rétributions le précèdent. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, dit la parole, de notre Seigneur, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. C'est pourquoi Jésus, qui est doux avec les brebis, et avec les brebis perdues des maisons d'Israël, il est très sévère avec les pharisiens dans un très long discours, un long discours de condamnation célèbre en chapitre 23 de l'évangile de Matthieu. Nous allons pas regarder en détail, mais à 8 reprises, dans ce discours, revient cette expression qui n'est pas empreinte de douceur: malheur à vous, hypocrites. Sévère avec eux, car contrairement à ceux qui sont fatigués et chargés par leurs péchés, ces pharisiens se réjouissent de leur propre justice. Il y a aussi, dans un passage très proche du passage de Matthieu chapitre 11, je crois que c'était juste avant, où il a dit la même chose, non pas sur les pharisiens, mais sur des villes. Bethsaïda, Capernaum, ces villes où il avait fait tant de miracles et qu'il avait rejetés. Et on peut se demander si, puisqu'on doit imiter Christ, on doit être ses imitateurs, est-ce que nous devons aussi l'imiter dans les discours de condamnation? Et je pense que l'histoire de l'Église montre que c'est certainement le rôle des prédicateurs et des pasteurs de dénoncer les dérives de l'Église, les dérives du peuple de Dieu. Et c'est ce qu'ont fait par exemple les réformateurs au VIe siècle. Dans l'esprit de ce passage, c'est pas quelque chose qui est fait à la légère, et c'est plutôt le rôle des pasteurs, à l'image des prophètes de l'Ancien Testament ou de Jésus lui-même, qui ont pour devoir de condamner les dérives de l'Église. Et je crains que ce soit malheureusement pas assez fait. Mais c'est ce qu'hésite pas, par exemple, à faire de nos jours un homme comme assez célèbre comme le prédicateur américain John MacArthur. Notons par ailleurs que malgré cette condamnation solennelle de Jésus envers les pharisiens, la grâce de Dieu et sa douceur peuvent s'exercer même envers les plus durs d'entre eux. Et c'est ce qui s'est passé avec l'un des pharisiens les plus acharnés, qui est devenu un des plus ardents apôtres de Jésus et qui n'était autre que l'apôtre Paul. Étudier le récit de la conversion de Paul sur son chemin à Damas, on voit que Jésus l'a traité avec une grande douceur, entièrement imméritée quand on connaissait la brutalité en fait de Paul envers le peuple de Dieu. Comme nous allons le voir bientôt, d'ailleurs, ce même Paul nous exhorte sans cesse à la douceur dans ses épîtres. Tout d'abord en Galates 5, 22 et dans beaucoup d'autres passages. Mais avant de regarder cela, je voudrais qu'on se pose cette question. Finalement, c'est quoi la douceur? Comment peut-on la définir? Tout d'abord, je note que la douceur, c'est un trait actif, au contraire de la patience ou l'humilité, qui sont plutôt des traits passifs. La douceur, c'est une manifestation de la bonté en action. Et alors que la patience peut être une qualité, bon, ça peut être une qualité avec les autres, mais ça peut être aussi une qualité face à nos circonstances, la douceur, elle s'exerce toujours en relation avec les autres. Et je voudrais citer ce que dit un commentateur de la douceur. Il dit qu'elle est, la douceur est illustrée par la façon dont nous manipulons un carton rempli de verre en cristal. Elle consiste à reconnaître que la personnalité humaine a une grande valeur et qu'elle est fragile et doit être manipulée avec précaution. Et le même auteur remarque, et je trouve que c'est très utile, il dit que la douceur inclut aussi les concepts de respect et de considération. Je trouve que ça saisit bien l'idée et correspond bien à la façon dont Jésus se comportait avec des gens brisés comme la femme samaritaine. Il ne les bousculait pas, mais il les amenait en douceur à reconnaître leurs péchés et à comprendre que lui, Jésus, était la solution de leurs péchés. Alors, si on regarde ces passages sur la douceur dans le Nouveau Testament, j'en ai relevé au moins une quinzaine, mais je voudrais juste en citer quelques-uns, trois en fait. Et donc, on va regarder tout d'abord Tite, chapitre 3, verset 1. Donc l'épître de Tite, chapitre 3, verset 1, l'épître de Paul à Tite. Et donc là, on voit que dans ce passage-là, la douceur s'exerce envers tous les hommes. Et voici ce qu'on lit, donc Tite 3, verset 1. « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Et le texte qui suit dans ce passage, que je ne vais pas lire, mais il nous rappelle tout de suite combien nous étions pécheurs comme eux, comme tous les hommes, et comment nous avons été sauvés à cause de l'amour de Dieu. Et donc j'en conclus qu'on doit montrer notre douceur aux autres hommes, comme Christ a montré sa douceur envers nous. Et nous devons traiter tous les hommes, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens, avec respect et considération. Ensuite, un autre passage, donc en Éphésiens, chapitre 4, verset 1. Et donc là, Éphésiens 4, 1, nous voyons que nous devons être doux entre chrétiens. Donc Éphésiens 4, verset 1. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Donc là, Paul reconnaît qu'il y aura des tensions au sein du peuple de Dieu, et entre autres choses, nous sommes appelés à exercer les uns envers les autres cette douceur, et nous rappeler que le frère ou la sœur qui nous a peut-être offensé doit malgré cela être traité avec respect et manipulé avec précaution, pour reprendre notre image. Et ce n'est pas évident. Donc doit le frère ou la sœur qui nous a peut-être offensé doit malgré cela être traité avec respect et manipulé avec précaution. Et en fait, ensuite, un troisième passage, 1 Pierre 3, 15, qui montre que là, nous devons nous comporter avec douceur, aussi avec les non-chrétiens en particulier, même si nous sommes en situation d'être agressés à cause de notre foi. Et donc, je lis cela, 1 Pierre 3, 15. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Le passage donc il traite ici d'une situation qui est une situation de persécution, où l'on nous prend à partie de façon hostile et nous demande des comptes quant à notre foi. Et malgré cette agressivité, notre réaction doit être une réaction de douceur et de respect, même devant des personnes qui nous prennent à partie de façon hostile et agressive à cause de notre foi, nous devons avoir une réaction de douceur et de respect. Et on sent que dans ce passage, il y a en particulier en vue un bon témoignage. Il y a d'autres passages, je ne vais pas les citer, mais qui traitent de la douceur des pasteurs envers leurs troupeaux. Dans la deuxième épître de Timothée, nous voyons que le pasteur doit redresser avec douceur ceux qui sont dans l'erreur. Il doit aussi prêcher, exhorter avec douceur. Et Paul dit aux Thessaloniciens qu'il a démontré envers eux la douceur d'une nourrice envers ses enfants. Et en Galates 6, il nous exhorte à reprendre avec douceur ceux qui ont péché, car nous aussi nous pouvons être tentés. Donc la douceur, c'est une vertu qui revient sans arrêt dans les exhortations du Nouveau Testament, et pas seulement dans Galates 5, 22. Et avant de conclure, je voudrais aussi insister toutefois que, comme nous le voyons si bien chez Jésus, la douceur ne veut pas dire faiblesse. Elle ne veut pas dire mollesse, et elle ne veut pas dire indulgence coupable non plus. C'est souvent l'erreur dans laquelle on peut tomber ou tombent les gens du monde. Et par exemple, on voit par exemple que les parents doivent reprendre leurs enfants. Et ainsi, Proverbe 13, 24, je lis la traduction « parole de vie », Proverbe 13, 24, je trouve que la traduction est bien tournée. « Celui qui ne frappe pas son enfant ne l'aime pas. Celui qui ne le corrige montre son amour envers lui. » Donc en fait, ce que nous dit ce passage, c'est que donner une fessée, c'est une preuve d'amour selon la Bible. Au premier abord, cela ne nous paraît pas doux, mais cela le devient si c'est fait avec respect et considération pour l'enfant. Alors comment pouvons-nous parvenir à cette douceur? Et nous devons reconnaître que c'est probablement une des choses sur lesquelles nous péchons le plus. Probablement parce que peut-être nous y considérons de la faiblesse, une forme de faiblesse, et c'est vraiment contraire à notre nature. Alors comment peut-on parvenir à cette douceur? Je pense que je reprendrai ce qu'ont dit les frères, en particulier le frère Timothée là-dessus, qui disait que les fruits de l'esprit, en fait, c'est pas nous qui devons manufacturer nos propres fruits de l'esprit, Parce qu'en fait, en nous, on n'a pas la douceur, on a la chair, et la chair ne produit pas la douceur. Alors on pourra faire quelque chose, mais quelque chose qui sera pas authentique, qui sera une contrefaçon, ça se verra très vite. Mais ce que nous devons, c'est canaliser la douceur qui vient de l'esprit. Prenez vraiment cette image, presque une canalisation, et on doit renvoyer vers les autres cette douceur qui vient d'en haut, qui vient de l'esprit, qui vient pas de nous. C'est une douceur qui vient de l'esprit. C'est une douceur qui vient de Dieu. C'est pas notre propre douceur. Et autre chose que je voudrais remarquer en conclusion, c'est que il n'y a pas, il y a un des fruits de l'esprit qui est le fruit de l'amour, qui est probablement à l'origine de beaucoup de ces fruits, de la bonté, de la gentillesse, de la douceur. Et si nous aimons, si d'abord nous aimons sincèrement notre prochain, alors nous produirons de façon authentique, et pas de façon hypocrite, mais de façon authentique, de la douceur. Parce que si vous avez de l'intérêt pour une personne, si vous l'aimez sincèrement, alors vous aurez naturellement envie de ne pas l'offenser, de ne pas le blesser, de le manipuler avec précaution, et tout simplement de le respecter. Et voilà, je pense que ce lien, dans toutes nos relations avec les autres, il y a beaucoup de fruits de l'esprit qui sont liés à nos relations avec les autres. L'amour, c'est le fruit premier, c'est pour ça qu'il est cité en premier d'ailleurs, et qui doit être à l'origine des autres et qui doit effectivement alimenter les autres. Voilà, j'en ai terminé. Je vais relire une deuxième fois ce cantique que j'ai lu au début, que tout le monde n'a peut-être pas entendu, et puis après, je prierai et nous aurons terminé. Donc j'ai lu ce cantique qui était donc écrit par Horatius Bonar, donc un prédicateur écossais de la première partie du XIXe siècle. J'ai entendu la voix de Jésus qui disait: Viens à moi et trouve du repos, toi qui es fatigué. Viens reposer ta tête sur ma poitrine. Je suis venu à Jésus, usé et triste. J'ai trouvé en lui un lieu de repos et il m'a donné la joie. J'ai entendu la voix de Jésus qui disait: Voici, je donne gratuitement l'eau de vie. Toi qui as soif, penche-toi, bois et vis. Je suis venu à Jésus et j'ai bu, à ce courant d'eau qui donne la vie. Ma soif a été étanchée, mon âme ravivée, et maintenant je vis en lui. J'ai entendu la voix de Jésus qui disait: Je suis la lumière de ce monde enténébré. Regarde à moi, ton aube se lèvera, et ta journée resplendira. J'ai regardé à Jésus, et j'ai trouvé en lui mon étoile, mon soleil, et dans cette lumière de la vie, je marcherai jusqu'à ce que mon pèlerinage soit achevé. Voilà, prions. Seigneur, nous nous tenons devant toi, et nous reconnaissons nos carences, notre défaillance en matière de douceur. Seigneur, nous avons besoin d'être enseignés de toi. Nous nous repentons, Seigneur, de toutes les fois où nous n'avons pas exercé la douceur. Nous repentons, Seigneur, de cette incapacité qui est en nous à être doux avec les autres. Seigneur, nous demandons de mettre en nous de l'amour. L'amour pour toi, Seigneur, et l'amour pour les prochains. Et que sur cette base, Seigneur, nous exercions envers eux la douceur comme toi tu l'as fait. Enseigne-nous aussi, Seigneur, à savoir l'exercer sans être hypocrite, à savoir exercer sans être faible, à savoir l'exercer sans être indulgent quand il ne le faut pas. Donne-nous la sagesse, Seigneur, et donne-nous surtout, effectivement, mets en nous cette douceur qui était la tienne et qui ne nous est pas naturelle. Veuille, Seigneur, maintenant bénir nos soirées. Je te prie, Seigneur, en ton saint nom. Amen. Bonsoir à tous.